Bonjour Bruno.
La marche de l'histoire un siècle après, si j'ose dire.
Oui, on a suivi séquence par séquence depuis février les événements en Russie en 1917, les événements tels qu'ils ont été vus par les contemporains.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Octobre 1917, la révolution de Lénine.
Vestiplanie, ça veut dire insurrection. Et Kerensky, c'est Kerensky, et bolcheviki, c'est bolchevique. Alors je crois que c'est un appel à l'insurrection des bolcheviks contre le gouvernement Kerensky et premier tchiké.
C'est quoi, premier tchiké?
Oui, je connais pas le russe à ce point-là.
Lénine a convaincu les bolcheviks du bien fondé de sa stratégie d'insurrection. Pas besoin des soviets et des ouvriers qui se reconnaissent en eux. Il faut s'appuyer sur ses forces propres. En un tour de main, Kerensky, qui n'a même plus l'apparence de l'homme fort qu'il a été quelques mois auparavant, et son gouvernement provisoire qui ne pouvait plus durer, passe à la trappe de l'histoire et le pouvoir revient à un conseil des commissaires du peuple que les bolcheviks contrôlent entièrement. Et ainsi, 10 jours ébranlèrent le monde. Cette terminologie communiste s'est longtemps imposée dans le récit d'octobre, mais d'autres historiographies ont maintenu d'autres points de vue, avec une détermination obstinée jusqu'à se faire entendre de plus en plus. Il y avait, en effet, d'autres partis politiques progressistes que les bolcheviks. Ils ne correspondaient pas nécessairement à la place que Lénine leur a fixée, les cadets, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, SR dit de droite, SR dit de gauche, etc. Et à dire le vrai, tous, les bolcheviks y compris, étaient secoués en tous sens par les chaos d'une période de plus en plus confuse. Seule l'élection d'une assemblée constituante promise pour novembre 17 dessinait peut-être un horizon d'attente commun, mais pas pour Lénine, qui jugea plus sûr d'accrocher au plus vite son étoile rouge au-dessus du poteau noir. Les photos des journées d'octobre sont rares, mais les témoignages des contemporains nombreux. En 1966-1967, l'ORTF a entrepris une vaste collecte de ces témoignages de contemporains. Une fois encore, nous serons aujourd'hui redevables de ce beau travail, aussi honnête que discret, qui a été entrepris notamment par Catherine Cochrane et Jean Bélancy.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Revenons en juillet, Lénine, qui était rentré d'exil par l'Allemagne, tentait un premier putsch. Allez, une première prise du pouvoir, va-t-on dire. Ses leviers, les marins de Kronstadt, qu'on retrouvera plus tard en octobre, la garnison de la forteresse Pierre et Paul, plusieurs journaux adverses sont investis, et puis aussi les environs des gares. Mais alors que la partie n'est pas loin d'être gagné, Lénine se demande à haute voix, est-ce que le moment est venu? Il a effrayé, s'emporté l'estocade. Témoignage, ce sera le premier, Georges Adamovitch.
Mon père fut ahuri et terrifié, comme il a dit par la suite, d'apprendre que sans crier gare, on le proposait aux élections de maire de Petrograd. 12 ans d'absence, une coupure absolue et totale de son pays, l'avait vraiment peu préparé à cette charge, d'après lui. Il se passait encore quelque temps d'hésitation, de conversation, de palabres. Mais poussé par le parti, obligé par le parti, il dut se présenter aux élections. Qu'est-ce la charge de maire de Petrograd? Ça réunit les charges du préfet de la Seine, pour donner un exemple précis, et de maire d'un arrondissement en même temps. Mais étant élu au suffrage universel, comme les maires des provinces, comme les maires urbains et les maires ruraux, c'est une organisation qui prend une grande partie de la vie économique et même politique du pays. Donc la charge de maire de Petrograd, pour un homme scrupuleux, connaissant toutes les difficultés, car mon père avait été déjà adjoint de maire pendant 4 ans à Ekaterinoslav, et en plus, toute sa jeunesse s'était passée dans le travail, n'est-ce pas, de municipalité et de mairie. Cette proposition lui avait semblé absurde. Devant l'obligation de s'exécuter, car le parti avait des possibilités de l'obliger à le faire, Il se présenta aux élections et, à son grand étonnement, il fut élu presque par la totalité de la population de Petrograd, c'est-à-dire 3 millions de voix. Donc, mon père donc prit sa charge à la fin du mois de juin. Quant à moi, je me promenais dans les rues, j'écoutais la foule, et est-ce parce que je me sentais parfaitement étrangère, mais mes constatations étaient terrifiantes. J'avais l'impression que de partout, le mécontentement, l'incompréhension, le désespoir, bien souvent, les poussaient à quelque chose de terrible. C'était très confus pour moi à l'époque, mais au bout d'un mois, j'étais fixée. Dans les foules, dans les queues, dans les boutiques, n'est-ce pas, pour les produits alimentaires, il y avait des hommes, des femmes indéfinis, qui paraissaient tantôt des paysans, tantôt des ouvriers, mais que j'avais l'impression absolument certaine n'en étaient pas, qui faisaient de la propagande et toujours dans les mêmes termes. Regardez les bourgeois, ils sont toujours au pouvoir. Regardez Kerensky, regardez tous ces gens-là. Ils ont tout ce qu'il faut, nous on ne mange pas. Ils font venir des wagons pleins de nourriture qu'on distribue au ministère, qu'on distribue au palais d'hiver. On ne donne rien, nous faisons la queue pour un bout de pain.
Alors ce printemps 1917, il est marqué par une course de vitesse entre les élections. Il y en a sans arrêt en Russie et la possibilité de l'émeute et déjà de l'insurrection. Je vous ai fait faire un petit pas de côté avec Lydie Collard, la fille du maire de Petrograd. Alors voici comme promis, Georges Adamovitch. Il parle de juillet et de la tentative de coup d'État de Lénine.
C'était la première émeute bolcheviste qui a duré un ou deux jours, 24 heures, quelque chose comme ça. Et là, ça a effrayé tout le monde, cette bourgeoisie à laquelle j'appartenais. Parce qu'on idéalisait le moujik russe, le paysan, les soldats, les ouvriers. On croyait, oui, ce sont des humbles, oui, ils n'ont pas d'argent, nous sommes un peu plus favorisés que par le sort. Mais enfin, c'est toujours les Russes, on est tous amis, on est tous frères. Enfin, on ne comprenait pas qu'il peut y avoir une haine de classe. Et cette émeute du début de juillet, je me souviens les visages, les physionomies de ces... ce jeune bolcheviste, de ces jeunes gardes rouges, comme les appelait, plein de haine, justement, contre les bourgeois qui tiraient contre eux, qui se défendaient, enfin, dans ces bagarres qui ont éclaté, on sentait justement quelque chose d'implacable, une haine sans issue, qu'on a senti pour la première fois.
Adamovitch et les Russes de sa sensibilité libérale ont peur, mais Lénine aussi. Il craint la campagne de presse et le procès qui vont rappeler les circonstances de son retour en Russie, qu'a permis et protégé l'ennemi allemand. Lénine, traité d'espion, préfère donc s'éloigner en Finlande. Il ne reviendra que deux mois plus tard. Kerensky est maintenant Premier ministre. Il se donne l'apparence d'un homme fort. Au palais d'hiver, il dort dans le lit du tsar Alexandre III. Il travaille à son bureau. Mais son entente avec le chef d'état-major, qu'il a pourtant nommé, le général Kornilov, vole en éclats. Kornilov lui propose de se débarrasser définitivement des soviets, mais Kerensky n'a plus confiance ni en son nationalisme politique, ni en sa capacité à diriger ce qui reste des armées. Il va pousser Kornilov à la révolte. Kornilov va être rejeté dans les ténèbres extérieures, sans que Lénine n'ait été vraiment mis hors jeu. Kerensky est seul, Lydie Collard de nouveau.
On a vacillé, on a tâtonné, on n'a pratiquement rien fait. Et je crois que c'est de là est parti le grand succès de la propagande bolchevique. Parce que tout le monde a crié, voyez-vous, le gouvernement est vendu aux généraux, le gouvernement est encore avec l'ancien régime. C'était facile. C'était facile, c'était d'autant plus facile qu'à part un Tchernov qui avait gardé encore toute sa puissance auprès du peuple, on connaissait son nom, on savait que c'était le ministre qui voulait leur rendre la terre et tout, Kerensky n'avait plus aucune audience. Il voyageait, il s'en allait, il parlait, il circulait, ça a toujours été un agité, un instable à mon avis. J'étais sa secrétaire beaucoup plus tard, en 1921 à Prague, au temps déjà de l'émigration, Et c'était des locaux immenses aussi. Et je tapais à la machine pour Kerensky. Et il s'en allait à l'autre bout du palais où nous étions en travail. Il m'est arrivé bien souvent de courir après lui pour lui dire « Écoutez, rentrez à la maison s'il vous plaît ».
C'est que la Russie est prise dans une spirale de désordre. Partout, loin des fronts, dont on se demande comment ils tiennent encore, on voit des capotes de soldats, des déserteurs, des auto-démobilisés, prêts à quelle violence pour survivre. Ils sont ainsi très nombreux à avoir rejoint leur village, livrés à eux-mêmes. On entendait à l'instant le nom de Tchernov, socialiste révolutionnaire, ministre de l'Agriculture. D'innombrables propriétés rurales sont mises à sac. Dans de grandes opérations de purification, les livres en sont brûlés, les pianos jetés par les portes et les fenêtres fracassés à leur tour. Les paysans russes ne sont pas loin de réaliser leurs rêves. Ils sont enfin seuls. Plus de nobles, plus de citadins, plus d'administrateurs, plus de juifs non plus. Dans l'industrie, alors que la production de charbon a baissé de 60% en un an, les comités ouvriers votent sans désemparer des arrêts de travail et les patrons décrètent les lock-outs. Nous sommes fin septembre, début octobre.
Quand revient le mois d'octobre, monte une chanson d'automne dans les cœurs du monde entier, sur un bonheur enchanté. 1917, 1917, un jour cette voix du peuple est sorti de l'ombre et cette chanson d'octobre est née. Avec leur tête, avec leurs doigts, avec leurs rêves, avec leurs voix, avec leurs yeux, ils ont fait ça. Combien d'entre eux sont encore là?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Combien d'entre eux sont encore là, demandait Mouloudji en 1967. Je le répète, l'ORTF avait collecté de nombreux témoignages de contemporains que nous utilisons pour tenter de raconter la journée du 25 octobre 1917, parce que on va y venir. Lénine est rentré d'exil, il n'a que faire des échéances électorales, ni le congrès des soviets fin octobre, ni l'assemblée constituante dont l'élection est prévue pour novembre. Il veut que les bolcheviks agissent seuls. Dans les comités centraux clandestins qu'il a convoqués, il obtient la majorité du parti sans parvenir à convaincre ses camarades Kamenev et Zinoviev qui disent « il faut faire un front avec d'autres, sinon c'en est fait de la victoire immédiate et surtout de la construction à terme d'une société socialiste ». Mais Lénine explique que l'insurrection est un art, tout d'exécution, qu'on peut donc parvenir au pouvoir avec ses seules forces, si peu nombreuses soient-elles. On l'a déjà entendu dans la marche de l'histoire, Pierre Pascal, c'est un Français, il n'est pas encore bolchevique, il est pour l'heure encore lieutenant à la mission militaire française auprès de l'armée russe. Nous sommes le matin.
Bien ce jour-là, sur les 9h du matin, sans doute, je me vois quittant mon domicile au sud de la perspective Nevski, pour gagner la mission militaire à laquelle j'appartenais et qui se trouvait installée au nord, au contraire, de la perspective. Eh bien, dans les rues, rien de notable. C'est seulement en arrivant à la place du palais Marie, où siégeait le pré-parlement, c'est seulement là que je remarque quelque agitation. Le palais est gardé par des piquets de gardes rouges et de marins, et il n'y a pas moyen de traverser la place. Je continue malgré tout mon chemin, sans être spécialement intrigué par ce phénomène, et sans encombre, j'arrive à la mission. C'est là seulement que j'apprends les nouvelles. J'apprends donc que dans la nuit, les points stratégiques de la capitale avaient été occupés par les bolcheviks et était passé sous le contrôle des commissaires désignés par le comité militaire révolutionnaire qui était sur place depuis plusieurs jours.
Alors, note en bas de page, comité militaire révolutionnaire, c'est l'organisation bolchevique ad hoc, dirigée par Trotsky. Les marins sont là, bolcheviks, ils viennent de Kronstadt. Certains sont sur le croiseur Aurore et les gardes rouges, ce sont des civils armés. Il est 10h, Dimitri Tikhonazov est un colonel de l'armée russe.
C'est le vice-directeur qui me reçoit. Comme les questions que je pose sont de l'essor directeur, le prince Volkonski me prie d'attendre un instant Nuratov, qui en ce moment siège au conseil des ministres au plein hiver. Dans un fauteuil confortable, j'attends avec patience. Mais le conseil des ministres, qui devait être clos d'un instant à l'autre, se prolonge. Le prince Volkonski reçoit un coup de téléphone qui le fait pâlir. Raccrochant le récepteur, il me dit « C'est inutile d'attendre le retour du directeur. » Je comprends que ça ne va pas. Je prends congé du prince et je sors sur la place.
Et qu'avez-vous vu en traversant la place du palais ?
Le trafic est comme de coutume, mais à travers le flot des passants, circulant dans les deux sens, j'aperçois devant la colonne Alexandre, située au centre de la place du palais, une demi-compagnie de choc du bataillon féminin de la mort, haranguée par une femme officier. En rang serré, au garde à vous, armes aux pieds, baïonnettes au canon, en tenue de combat, les femmes soldats ont un aspect guerrier irréprochable. À leur front gauche se rangent les élèves aspirants de l'école du génie, dont les patrouilles arrêtent les passants pour vérification d'identité. Lorsque le civil que j'étais eut présenté mon ordre de mission, le chef de la patrouille me fit un salut militaire et me laissa passer vers l'arc.
Le gouvernement provisoire dispose en plus des Amazones de 3000 hommes. Seulement, même pas d'un plan du bâtiment, ce qui ne va pas empêcher Kerensky de s'exfiltrer le matin à la recherche de secours à l'extérieur. À 12h, toujours le même jour, le jeune et fringant Constantin de Grunewald.
Le 25 octobre, des 10 jours qui ébranlèrent le monde, était celui où je devais prendre l'apéritif dans le cabinet particulier d'un restaurant à la mode avec une jeune et jolie femme que je courtisais. À travers des rues à moitié désertes, parcourues par des petits groupes d'ouvriers armés de fusils, je me dirigeais d'un pas alerte vers le lieu du rendez-vous et naturellement, je trouvais le restaurant fermé, j'aurais dû m'y attendre. Je frappe à la porte du service, aux vitres barricadées, et la voix d'un vieux gardien me répond de l'intérieur « Mais voyons, monsieur, c'est la révolution !» Et je rentrais chez moi, très déçu. J'étais pas le seul à l'être, ce jour-là, à trouver une déception. Tous ceux qui ont cru au maintien éternel de notre vieille structure sociale ont dû éprouver une déception encore beaucoup plus amère.
Alors comme le restaurant auquel se rendait Grunewald, les bureaux ferment un peu plus tôt que d'habitude, livrant les passants à la promenade. Pierre Pascal, nous sommes maintenant à 18h.
Maintenant il est sur les 6h de l'après-midi, je rentre chez moi à préparer ma valise et c'est toujours dans la ville le calme complet. Il y a des promeneurs, comme les autres jours, en civil, beaucoup en militaire, naturellement, tout le monde était plus ou moins militaire, ou avait une capote de soldat, tout au moins. Sauf au Palais-Marie encore, là, il n'y a toujours pas moyen de traverser la place, il faut faire un détour. Mais les marins n'ont rien de spécialement belliqueux. J'en vois un qui explique à une femme comment il faut faire pour contourner la place et poursuivre sa route. J'entends des conversations dans la rue entre les gens. des réflexions comme ceci, j'ai noté celle-ci. Après tout, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'ordre, et puis surtout, il nous faut des provisions. Je reviens à la mission pour prendre mon rapport, et c'est là que j'apprends les événements plus au long, et en particulier, on me raconte ce qui s'est passé aux centrales téléphoniques. Le central téléphonique avait été occupé pendant la nuit, comme tous les autres points stratégiques, par les bolcheviks. Mais dans la suite, on y avait le gouvernement y avait envoyé des militaires, des élèves des écoles militaires, des Junkers, pour reprendre le central. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Les Junkers se présentent, les bolcheviks refusent de quitter la place, et ils disent, nous sommes ici une compagnie. Alors les Junkers se regardent un peu, disent, nous ne sommes qu'une section. Vous êtes les plus forts. Les Junkers s'en vont. Voilà, au moins dans quelques endroits, comment les choses se sont passées. On m'a raconté également, mais c'est moins précis, que dans d'autres endroits, les Junkers et les bolcheviks prennent la relève les uns des autres. Là, c'est un accord tout à fait à l'amiable. Ailleurs, les Junkers ont rendu spontanément 4 pièces d'artillerie qu'ils avaient. Voilà certains aspects de cette journée.
Quant à la nuit, elle va être longue pour les ministres du gouvernement provisoire qui, privés de Kerensky, demeurent pris au piège dans le palais d'hiver. Elisabeth Poretsky est alors une jeune étudiante.
Et dans le palais même, il y avait ce gouvernement qui avait une chose à l'air actif. Il avait une ligne téléphonique. Ce que les bolcheviks n'arrivaient pas à couper. Ils n'ont pas trouvé, ils ne savaient pas où. Savez. Et cette ligne leur permettait quand même de persister pour un peu de temps. Il avait eu le contact avec le quartier général. Il avait le contact. Il n'était pas coupé. Il y avait aussi des vivres dans le palais. Mais le palais d'autre part avait d'innombrables entrées et petites portes, je ne sais pas quoi. Il était infiltré dès le début par les agitateurs bolcheviks. Qui parlait avec les domestiques, les servants, qui parlait avec les Junkers, qui se bagarrait un peu avec eux. Et avant, ce n'était quand les bolcheviks ont finalement trouvé et coupé cette ligne téléphonique que ce gouvernement-là, envie de l'Aurora, qui était là, et étant coupé, a commencé vraiment à réfléchir qu'est-ce qui peut venir de dehors.
Mais qui étaient les défenseurs du palais?
Le gouvernement provisoire eut des défenseurs ténaces et enthousiasmés, représentés par les aspirants d'école du génie de Petrograd, sans compter quelques Junkers d'école polske, par une quarantaine d'invalides et enfin par une compagnie de choc du bataillon féminin de la mort.
Comment l'attaque se déroula-t-elle?
Le soir, les patrouilles étaient remplacées par les troupes adhérées à Lénine. Ils comprenaient les matelots, soldats et ouvriers. Ils étaient nombreux. Sur la place, on entendait et les mitrailleuses et les coups et même le coup de canon. Était placé sous l'arc du grand état-major général. Le croiseur Aurora, c'est vrai, il donna seulement des coups blancs, mais la forteresse Saint-Pierre et Paul tira quelques coups et un obus et même tombé dans une salle contiguë à la chambre où siégeait le gouvernement. Mais les défenseurs ont pris ça pour une grenade.
Les défenseurs qui cèdent dans la nuit. Vous avez bien entendu le colonel Tycho Brazov. le croiseur Aurore a surtout tiré des coups à blanc. Il n'avait guère de munitions. Donc la révolution d'octobre se passe avec très peu de morts, sans déploiement de foule. Et le lendemain, Lénine, qui a quitté ses déguisements, peut dire « Le pouvoir est aux soviets », signé le comité militaire et révolutionnaire, lequel, entièrement contrôlé par les bolcheviks, a pris le pouvoir au nom des soviets. La grande majorité de la population n'a pas idée de ce qui s'opère ce jour décisif. Pierre Pascal, son dernier témoignage de lieutenant français le lendemain.
Le soir venu, je pars pour Dvinsk, et là encore, les choses sont extrêmement simples, normales. Le tramway m'amène à la gare avec ma valise, je prends un billet, je trouve une place, pas encore une place assise, une place debout dans le corridor, parce que comme toujours, il y avait beaucoup de monde. Mais ce n'était pas seulement ce jour-là, c'était normal. Et dans ce couloir, les conversations s'engagent très pacifiquement. Il y a des civils, il y a des soldats, il y a des aspirants, ces fameux praporchiks qui ont joué un si grand rôle dans la Révolution. Tout ce monde-là sait que les bolcheviks ont pris le pouvoir. Les soviets ont pris le pouvoir. Les bolcheviks à leur tête. C'est une chose qu'on constate, sans plus, avec une espèce d'indifférence. Et aussitôt, en causant, on passe vite à des choses plus intéressantes, des choses personnelles, des souvenirs de guerre pour les soldats, des histoires de famille pour les civils. Et en somme, le passage du pouvoir aux soviets est reçu dans le public en général comme un épisode. La raison, c'est qu'il y a eu déjà beaucoup de journées révolutionnaires. Eh bien, c'est une journée de plus. On est habitué. Voilà comment les choses se passent.
Oui, mais dans la réalité, le même jour que décrit Pierre Pascal, Lénine signe les trois décrets. Le décret sur la paix, il espère que les autres peuples en guerre se soulèveront. Le décret sur la terre, qui accompagne la redistribution des terres que les paysans eux-mêmes organisent. Et enfin, le troisième décret, la création du Conseil des commissaires du peuple, qui devrait gouverner en attendant la constituante. En fait, Lénine espère bien ne pas devoir s'encombrer de la constituante. Voilà, demain nous parlerons des écrivains russes et de la révolution de 1917. Cette émission était préparée par Ilinka Negulesco avec Audrey Ripouille à la réalisation. À la technique, c'était Michel Bézikian.